Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bienvenue dans On the Verge, un podcast dédié à la sexualité masculine, sans tabou ni jugement. Pour cet épisode, c'est Alan, qui vit en Suède et qui était de passage à Paris, qui est venu parler à ce micro. Pour vous présenter Alan, je pense que la plus simple des choses à faire est de vous lire la réponse qu'il m'a faite à la question « Pourquoi raconter ton histoire dans un épisode de On the Verge ?» Je prends donc cette question comme « Quels seraient les effets potentiels de mon histoire chez les écouteurs ?» Et pour cela, je peux résumer mon histoire en disant qu'à 26 ans, je serai peut-être un des plus jeunes interviewés du podcast. Mais je pourrais décrire une relation relativement prématurée avec le caractère sexuel dans ma vie, une exploration personnelle copieuse qui continue de nourrir un imaginaire riche, plusieurs longues relations amoureuses sans trop de moments forts sexuellement. Puis une découverte soudaine du BDSM, de toute cette communauté, ses codes et ses pratiques, pour finalement retomber dans une nouvelle relation amoureuse actuelle avec quelqu'un qui se trouve aux antipodes de mes goûts et désirs, désormais décuplés, et qui en même temps, la personne pour qui j'ai développé le plus de sentiments. Je vous laisse avec cet entretien qui est très fort, qui va vous amener dans le milieu BDSM assez poussé, mais aussi sur des réflexions de vie à deux, par cet homme, ce jeune homme de 26 ans, qui, je pense, ne vous laissera pas totalement indemne après l'écoute de cet entretien. Aujourd'hui, c'est Alan qui est en face de moi. Alan, tu as 26 ans.
J'ai 26 ans, oui.
Et Alan, pour le moment, je crois que tu es celui qui vient de plus loin, puisque tu vis en Suède.
En effet, oui.
Et tu es de passage à Paris. Donc, on en a profité pour se catcher rapidement. On a échangé, toi et moi, d'abord par mail, où je t'avoue, je te le dis, ta façon de t'exprimer, tes mots, la façon dont tu racontes les choses m'ont beaucoup impressionnée. Notamment, je ne dis pas que c'est forcément lié à l'âge, mais à 26 ans, c'est costaud déjà comment tu écris, comment tu t'exprimes. Alan, je vais commencer tout de suite par la première question que tu connais. Quel est ton tout premier souvenir qui est lié à la sexualité et à l'érotisme?
Alors, j'y ai pensé forcément. Et je crois que le souvenir le plus lointain que j'ai pu vraiment attraper, c'est... Je ne pourrais pas vraiment mettre le doigt sur le jour, etc. Mais je me rappelle que c'était dans la cour de récréation en école maternelle où, on a tous une petite amie, quelque chose comme ça. Et je me rappelle donc forcément à cet âge-là, sans trop de pensée de fond sur pourquoi ou quoi que ce soit, mais je me rappelle que cette petite amie en question avait une longue robe et j'étais étrangement attiré par le fait d'être en dessous de cette robe-là.
D'accord.
Et ça a commencé comme ça et je pense que c'est même plus après coup, plus tard, où je me suis dit que tiens, c'était le début de ce que je connais maintenant peut-être. Mais ça a commencé comme ça et étrangement après ça j'ai pas vraiment réussi à trouver d'autres occasions vraiment importantes à ce sujet là si ce n'est forcément du coup la première masturbation du coup qui est arrivée à l'âge de 10 ans, ce qui du moins dans ce que j'ai entendu, est relativement précoce.
Ça dépend après là, l'évolution de ton corps et la prépuberté.
C'est ça. Et on en parlera peut-être un tout petit peu plus plus tard, mais c'est un peu une thématique qui m'a suivi dans le sens où j'ai toujours été un peu plus précoce dans certaines choses. Et celle-ci n'a pas manqué.
On parlait facilement de sexualité chez toi à la maison ?
Non. Pour le coup, je sais que il y a beaucoup de personnes, c'est lié à une certaine relation à la religion, etc. Ma famille est athée au possible, donc ça n'a vraiment pas de lien là-dedans, mais le lien, je pense qu'il est plus dans le respect de la vie privée.
D'accord,
et
d'une
des choses
pudeur.
Privées.
Ok. Tu disais que tu as mentionné que tu avais un frère tout à l'heure avant qu'on mm-hmm. enregistre, un plus grand frère.
Oui.
Et vous parliez un peu tous les deux.
Pas du tout, non.
D'accord.
On a une différence d'âge qui est relativement importante.
Mm-hmm.
Ce qui a fait que lui était finalement... donc là, j'ai mentionné cet événement-là à l'âge de 10 ans.
Mm-hmm.
Et quand moi, j'avais 11 ans, il était déjà parti, en fait.
Ah oui, donc tu as été élevé quand même assez comme fils unique, même si tu avais ton frère.
Okay. J'ai beaucoup d'attention des parents à
oui.
un moment de la vie où peut-être on
tu
pourrait faire sans. Mais,
D'accord. Très bien, donc tu grandis, tu es ce petit garçon bon, qui, tu dis, a un petit peu d'avance. À 10 ans, ton corps a déjà changé ?
Je pense qu'il commençait à changer, oui, forcément.
Mm-hmm.
Et c'est clair que le peu dont je me souviens de ce moment fatidique, c'était vraiment quelque chose qui se passait, qui allait dans un sens, et sans pouvoir vraiment l'expliquer, il y avait une sorte d'instinct de continuer dans cette direction, sans même savoir vraiment où ça allait. Ça s'est terminé bah, du coup avec une éjaculation, etc. Et bah, forcément une petite interrogation okay. sur le coup, mais aucun doute sur le fait que la sensation était bonne.
Tu avais des questions, où tu trouvais les réponses ?
Sur le coup, pas beaucoup. Hein, pas, enfin, forcément
avec...
des questions, mais
t'en
pas vrai.
T'en parles avec les copains ou...
Eh bien, non. Justement, le fait d'être précoce, etc., ça rend la chose un peu difficile vraiment d'aborder parce que, bon, et d'une, on ne sait pas vraiment si c'est cool ou si c'est la honte. Ou
mm-hmm.
si... enfin, et du coup, j'ai gardé quand même beaucoup de choses pour moi. De ce côté-là, et j'ai fait beaucoup de découvertes et d'explorations finalement de mon côté. Et bah forcément, à l'âge, bon, forcément pas à l'âge de 10 ans, mais 12, 13 ans, Internet devient un petit peu plus popularisé.
Oui,
etc.
en plus,
ouais,
t'as un âge où Internet pouvait être à la maison.
Exactement, et donc forcément, la curiosité a amené que bon, on va regarder un peu ce qu'il y a sur Internet. Je me rappelle m'être fait un peu de soucis au début quand il demandait si, qu'il fallait avoir 18 ans et est-ce qu'il y avait un moyen qu'il retrouve que je n'avais pas 18 ans, etc. Mais,
Donc là, c'est quoi ? T'es au collège, début de collège ?
C'est ça.
Okay.
Je pense 13, 14 ans. Je pense que ça a commencé un peu comme ça.
Comment se passent tes années collège ? Parce que tu as l'habitude d'aller chercher les réponses à tes questions, mais avec les copains, comment ça se passe ? Est-ce que vous en parlez un peu plus ? Est-ce que tu commences à flirter avec les filles ? Comment tu...
Forcément, tu commences à t'intéresser aux filles peut-être d'une autre manière à cet âge-là.
Pas les garçons ?
Jamais les garçons, non. Ça m'a jamais vraiment effleuré l'esprit. Pour le coup, j'ai joué au basket très longtemps.
Mmh.
Douche commune, etc. Et de mon côté, ça a toujours été de bonne...
bonne camaraderie, en fait.
C'est ça. vraiment rien de...
Oui, c'était pas un sujet, en tout cas.
Pas de second degré du tout là-dedans. Je ferme jamais la porte à quoi que ce soit, mais jusqu'ici, c'est jamais vraiment quelque chose qui m'est venu dans ce sens-là. Donc
les filles, au collège, commencent un peu à... fricoter avec les filles ?
Un petit peu, mais pas de trop non plus finalement. Je me suis pas trouvé à l'aise avec les filles très rapidement, je pense.
Mm-hmm.
Pas
grand monde hein, au collège, hein, on se trouve à l'aise.
C'est ça.
Que ce soit avec les garçons ou les
j'imagine.
Filles.
J'imagine. J'étais relativement populaire dans ce sens-là où j'avais beaucoup d'amis.
Mm-hmm.
Mais disons que ça m'avait pas... Forcément, il y a des filles qui me plaisaient plus que d'autres, mais j'étais pas vraiment à la recherche de ça en particulier.
Mm-hmm.
Mais du coup, ma première copine, vraie copine dans ce cadre-là, j'avais 14 ans, donc dernière année de collège, tout ça. Et on a dû rester ensemble 8 mois, quelque chose
mm-hmm.
comme ça.
Et donc là, tes premières embrassades, un peu de flirt, un peu de...
il y a forcément, on passe par là. Et du coup, on a fait notre première fois ensemble.
Ah d'accord, à 14-15 ans ?
À 15 ans, du
15
coup,
ans.
J'avais, c'était durant l'été.
Okay.
Donc, 15 ans et quelques mois. Quoi.
Ok, c'était sa première fois aussi ?
Aussi.
Et alors, le corps féminin ?
Le corps féminin était fascinant de plusieurs plans, etc. Et je me rappelle qu'on avait eu des discussions très open, finalement très mature en regardant en arrière, mm-hmm. sur est-ce que tu veux essayer ça, est-ce que tu veux essayer ça, ouais, je pense que je suis prêt, je suis prête. Et donc oui, un jour ça s'est passé chez elle, ironiquement très tôt le matin pour quelqu'un qui n'est pas du matin du tout. Je me rappelle avoir vu l'heure de 4 heures du matin et de me demander qu'est-ce qu'on fait. Et un peu vraiment ce sentiment de « Ah, donc c'est ça, la chose, c'est ça. » Et, enfin, c'était pas désagréable, mm-hmm. mais un peu l'impression du « Bon, on en fait peut-être un peu beaucoup. »
Tout ça pour ça.
Okay. Et je me rappelle aussi et j'ai toujours été quelqu'un de plutôt empathique, mm-hmm. dans ce sens-là. Et je me rappelle que, forcément, la première fois, il y a souvent une sorte de douleur de son côté à elle, mm-hmm. etc. Et je me rappelle que ça m'avait un peu limité dans le sens où, si ça te fait mal, c'est peut-être qu'on ne devrait pas continuer comme mm-hmm. ça, ou peut-être qu'il faudrait essayer d'une autre manière, je ne sais pas. Mais bon. Des bons souvenirs. Okay. Des bons souvenirs de ce côté-là. On a pas mal exploré de notre côté à l'âge qu'on avait. Mm-hmm. On avait un intérêt mutuel sur tout ce qui est préliminaire, etc. Après 8 mois, donc le lycée a commencé et on était dans 2 milieux différents, etc. Et
chacun son chemin.
C'est ça, ça s'est terminé, ça s'est terminé comme ça.
T'arrives au lycée du coup, donc là tu n'as plus ta virginité. Comment tu es avec les filles? Plus à l'aise?
Plus à l'aise déjà, clairement.
Mm-hmm. T'as passé le cap, le fameux.
Passer le cap, tout en étant donné que j'ai dit que je gardais beaucoup de choses à moi-même, mm-hmm. un peu quand même dans l'ignorance de est-ce que je suis en timing, en mm-hmm. bon timing avec les autres, ou est-ce que je suis encore en avance, ou... Et je me suis rendu compte que, du moins dans le cercle d'amis que j'avais, j'étais quand même encore précoce à mm-hmm. ce niveau-là. Et,
oui, parce que la moyenne en France, c'est à peu près 17 ans, 17 ans et demi.
J'imagine, ouais, j'ai entendu ces chiffres-là. Et par exemple, j'ai eu une autre copine relativement, peut-être 6 mois après le début mm-hmm. de la seconde, et elle ne l'avait pas fait, et c'était vraiment pas dans ses plans de le faire de sitôt, etc. Et c'est vrai que ça a commencé à faire une sorte mm-hmm. de séparation où quand tu y as goûté, t'as quand même envie d'y goûter encore.
Oui, et puis là, en plus, 15-16 ans, les hormones, etc., ça peut durer très longtemps, mais c'est vrai que oui, je comprends que ce soit un peu frustrant pour toi.
C'est ça. Et donc, cette histoire-là s'est terminée rapidement. Je dirais pas seulement sur ce sujet-là, mais ça faisait clairement partie de ça. Et j'ai rencontré quelqu'un d'autre l'année d'après qui, elle, ne l'avait pas fait non plus.
Mais qui était plus OK.
Voilà. Qui était déjà un peu plus avancé sur l'idée de...
OK.
Et donc, ça s'est bien passé. Mm-hmm. On est restés ensemble 2 ans jusqu'à la fin de la terminale. On s'est bien amusés au début, surtout. Mm-hmm. Après, je me rappelle que, sans rentrer dans les détails, il y avait quelques maladies ou quelques infections qui sont venues quand même...
ponctuer votre vie sexuelle.
C'est ça.
Ah oui, pas cool.
Et du coup...
De son côté ?
De son côté, okay. Ouais. De son côté, et disons que quand t'as 17-18 ans et que le docteur a dit pas de sexe pendant 1 mois ou 2 mois, ouais. ça fait des périodes quand même relativement...
C'est long pour à cet âge-là, ouais.
Même à notre âge maintenant, oui. C'est quand même quelque chose qui n'est pas facile gérer.
Oui, et maintenant, on intellectualise un peu plus et puis ça rentre dans un autre processus. C'est vrai qu'à ces âges-là, t'as l'impression que... Il y a un truc un peu... C'est un peu grave, c'est un peu gros, je comprends. Ouais.
C'est ça. Et donc, forcément, ça a mis un poids sur la relation. Et étant donné que j'ai déménagé à la fin du lycée et qu'elle, non, mm-hmm. ça a un peu...
oui, pareil.
Voilà, ça s'est terminé un peu en...
Oui, ça s'est terminé. Voilà. C'est quoi ton rapport au porno à ce moment-là? Parce que t'es au collège, lycée, t'as accès à Internet à la maison, t'as un ordinateur dans la chambre?
Pas dans la mienne, ouais. Pour le coup, mais dans la chambre de mon frère qui n'est plus là.
Oui, dans ton bureau, finalement.
C'est ça. Et le rapport au porno est quand même relativement, je dirais peut-être pas quotidien, mais régulier.
D'accord.
Et toujours, toujours une part d'exploration et de voir ce qu'il y a. Aussi, forcément, à explorer un peu partout, on tombe des fois sur des trucs qu'on. Non, merci.
T'aurais préféré de ne pas avoir ça?
Avec le recul, je ne pense pas, parce que ça ne m'a pas affecté dans ce sens-là, mais c'est clair que. C'est bien 10-15 minutes de ma vie que je ne
Oui, que tu retiens pas.
reprendrai pas.
Tu retiens pas trop, ouais, je
C'est
comprends.
ça.
Et donc, du coup, quand tu vas sur des sites porno, etc., y a une quête masturbatoire ou pas forcément? C'est de l'ennui, c'est comment tu le définis?
À l'époque, ouais, il y a quand même cette question-là d'arriver à l'orgasme.
Ok.
Et.
T'as besoin de ce visuel, en tout cas.
Ouais, à ce moment-là, et en regardant en arrière maintenant, je trouve que plus ça avance, plus on a d'expérience à nous-mêmes, et
Moi, il y en a.
donc on a peut-être moins besoin du support imaginaire dans ce sens-là.
Oui.
On peut se rappeler de choses maintenant, mais du
On
coup,
se
à cet
suffit à soi-même.
âge-là,
Oui, je comprends.
c'était un peu plus peut-être compliqué. Et bon, il y avait quand même. Tout un tas de choses qu'on pouvait voir qui étaient à des années-lumière de ce qu'on faisait ou de ce qu'on sentait vraiment en confiance de faire à cet âge-là aussi.
Et quand tu regardes du porno et que tu as tes relations intimes avec tes petites amies, tu arrives à bien décorréler les deux ou parfois les choses se mélangent un peu?
Ce serait quand même simplifier la chose de dire que tout était séparé, etc., et que le porno était dans sa sphère et rien ne passait dans l'autre sphère. Forcément, ça alimente un imaginaire, ça alimente des fantasmes, etc. Mais après, ça a toujours été clair pour moi que, peu importe ce qu'on fait, c'est quelque chose qu'on va faire tous les deux, quoi.
D'accord.
Et aussi un peu cet idéal de ces choses-là. Si elles arrivent, elles devraient arriver naturellement. Donc je me
Parfois, il
suis
faut un
jamais
peu.
trouvé à demander quelque
Oui.
chose à quelqu'un parce que j'ai vu ça là ou pas vraiment dans ce sens-là, non.
Je comprends. Et avec tes potes, parce que pour le moment, tu parles de tout ça, mais j'ai l'impression que c'est très intime. Tu n'en parles pas avec tes copains au lycée non plus, ni porno, ni tout ça?
Pas beaucoup, non. Pas beaucoup, parce que je faisais déjà beaucoup de sport, etc. Et il y avait beaucoup, beaucoup de sujets qui venaient avant ça. Et je pense qu'on avait, forcément, des soirées entre potes, il y a toujours des phrases ici et là, et davantage d'autres potes qui en parlent, qui t'amènent, du coup, forcément à échanger quelque chose parce que bon vu qu'eux ils ont partagé
Oui, toi tu parles, oui,
c'est ça
donnant, donnant.
Mais pas tant que ça,
T'étais
je m'en
pas si
rappelle
présent que
pas,
ça, ouais.
non. Par exemple, je sais que avant la vingtaine, j'avais entendu parler de la biscotte ou
Ah oui,
des
le
trucs comme
fameux, ouais.
ça, et jusque-là, je croyais que c'était vraiment une légende urbaine. Enfin, que non,
Ah
les
oui,
gars font
si.
pas ça.
Mais si, si.
Et si, si. Et
Si,
donc voilà, j'ai pu du coup qualifier mes relations de pas comme ça, du coup.
En tout cas. Ok, donc là, bon, tu finis le lycée. Donc c'est quoi, ça a 20 ans que tu pars de France?
Oui, alors à la fin du lycée, à 18 ans, j'ai déménagé en France, du coup. J'ai fait 2 années de licence. Et là, pour le coup, blocage presque.
Blocage.
Ouais.
Pourquoi? Tu l'expliquerais?
Je pense qu'il y avait une solitude palpable et une sorte de
T'es dans une grande ville à ce moment-là?
une ville
De
moyenne,
taille moyenne,
c'est
ok.
ça. Et j'étais, je pense qu'il y avait une sorte de focus un peu sur les études, etc. Et un peu une perte de confort de ce côté-là, je crois. Et donc, comme tu disais, après ça, j'ai déménagé en dehors de France. Ça a commencé avec un semestre en Erasmus. Et pour le coup, je ne sais pas si les auditeurs connaissent beaucoup Erasmus ou quoi, mais Erasmus n'a pas manqué à la promesse,
la promesse
qu'on
d'une
fait
vie.
Souvent d'Erasmus, déblocage complet pour
d'accord.
le coup.
Bon, les fêtes, les potes, la vie en dehors de son cadre et de son périmètre. Donc, en plus, là, c'est une autre culture, parce que dans les pays nordiques, c'est vrai qu'on parle beaucoup, alors on fait les clichés, hein, mais des Espagnols, des Italiens, des Anglais, etc., mais et c'est vrai que les pays du Nord, comment sont les filles là-bas? Est-ce qu'elles sont plus libérées ou pas? Tu peux nous en dire plus là-dessus?
Je n'irai pas jusqu'à faire des généralités.
Non, il ne faut pas faire de généralités.
Mais c'est vrai que... disons que déjà l'Erasmus en lui-même est une bulle seule. Parce que, comme tu dis, ça pourrait être un peu partout dans le monde, étant donné qu'on rencontre des gens de partout. La culture locale n'a pas vraiment d'effet. Et pour le coup, le déblocage dont je parlais s'est fait avec des personnes qui n'étaient pas de là-bas. bien que, étant donné que j'étais en Finlande, la Russie est arrivée dans mon cercle relativement vite. Et là, pour le coup, j'ai vu des différences de culture, etc. Où j'ai pu développer un peu plus d'une relation. J'ai été avec quelqu'un, par exemple, pour 2 ans.
D'accord. Donc ça, c'est ta plus grande histoire, quasiment ?
Non, je dirais la plus grande histoire que j'ai, c'est celle que j'ai en ce moment.
Que tu vis maintenant ?
Mais donc cette fille russe que j'ai rencontrée durant mon Erasmus, ça s'est très bien passé avec elle et ça s'est bien passé des deux côtés, du côté dont on parle maintenant sexuel et du côté plus relationnel, etc. Et on a vécu ensemble, donc je suis resté là-bas. On a déménagé ensemble. Et ça n'a pas marché après ça.
Parce que ?
Je ne suis... Oh si, je sais, je pense. Mais je pense qu'on n'était plus en phase après ça. Moi, je commençais mon master et j'avais vraiment... Je commençais à vraiment grandir dans ce sens-là où, carrière, il faut commencer à penser tout ça. Et je pense qu'elle, elle avait soif d'avoir ses dernières années étudiantes, si tu vois ce que je veux dire.
Bah, la fête.
C'est ça, la fête, des nouveaux amis, sortir un peu tout le temps, etc. Et je pense qu'on s'est un peu perdu de vue comme ça.
Toi, tu avais fait le tour de tout ça, tu penses ?
J'ai jamais été vraiment fêtard dans ce sens-là. C'est toujours bien avec des amis, etc., mais fêter pour fêter, pas vraiment. Et je pense que la personne que je suis, avec les qualités, les caractéristiques que j'ai, ne donne pas très bien dans un contexte de club, de nightclub, de relations éphémères dans ce sens-là.
Pourquoi ça m'intéresse, pourquoi ?
Je pense que je fais un peu plus d'effet à la longueur, quand on commence à me connaître, quand on commence à discuter vraiment, quand on a peut-être une image un peu plus...
Complète
de moi, en fait. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a suivi et qui me suit encore. Je pense que je sais que mes meilleurs atouts, c'est ceux que je peux... construire petit à petit, finalement.
Offrir sur la durée, en tout cas.
C'est ça. J'ai pas, je ne pense pas, du moins, que j'ai un faciès vraiment qui appelle à l'action. Je n'ai pas peut-être un charme dans la parole directe comme ça, mais je pense que durée, je peux...
Ce que tu me dis, ça me fait penser à un clin d'œil, une chanson de Ben Mazuet. Je sais pas si tu connais ce chanteur et parolier français qui parle, lui parle en l'occurrence des femmes, des parleuses et des danseuses. Et c'est assez intéressant la façon dont il décrit les deux catégories de femmes. Mais c'est, enfin bref, à écouter, je pense. D'accord, donc tu as cette relation avec cette jeune femme russe qui s'arrête. Elle est comment, votre sexualité ? Tu restes sur des sexualités dites... pardon, je fais des gros guillemets, classiques, où vous allez un peu plus loin dans ce que vous avez envie d'essayer ?
Non, à cette époque-là, on est encore dans des relations, comme tu dis, plus classiques. Plus,
le teasing à cette époque-là.
C'est ça.
Que va-t-il nous raconter ?
C'est ça. Parce que un élément non sous-estimable de cette histoire, c'est que, et je vous passerai les détails de pourquoi le système national machin, après avoir éclaté, on a dû vivre ensemble 6 mois dans
d'accord.
le même appart.
Ah, après avoir rompu ?
Oui.
D'accord.
Donc c'est clair que la pick-up line, on peut aller chez moi, au fait, je vis avec mon ex.
Parce ça... que... Ah oui, mince. Ouais. C'est parce que quoi, vous aviez un logement et elle ne pouvait pas partir comme ça, ou elle était engagée ou quelque chose comme ça. Ouais. Aïe, aïe, aïe.
Et donc, 6 mois de, de frustration, bon, je vais être honnête, on a quand même fricoté après. Mais quand même, émotionnellement, quand même quelque chose de pas facile.
Oui, bah,
de
pour
toujours
l'un et l'autre,
un peu être rappelé de ça et tout. Mais ce qui m'amène justement à la fin de ces 6 mois-là, délivrance, soif d'exploration.
Tu as vraiment enterré d'histoire, du coup.
C'est ça.
Ok.
Et j'ai l'habitude de faire ça, en fait. Du moins, quand on me donne les, quand on me donne les moyens, j'aime bien vraiment... fermer cette page-là et vraiment écrire la nouvelle avec intensité, de manière à ce qu'on oublie un peu ce qui s'est passé. Et donc 6 mois après, donc j'ai mon appart à moi, une chose que j'avais pas eu du coup depuis que j'étais en France finalement. Donc liberté retrouvée, une vraie envie de rencontrer d'autres personnes, etc. Et donc là, bon, Tinder marche relativement bien.
C'est européen.
C'est européen.
C'est magnifique.
Le succès international.
C'est beau. La mondialisation.
C'est ça. Et aux alentours d'une rencontre Tinder, et donc c'est là où le teasing va se terminer, ou du moins se conclure, c'est que je rencontre quelqu'un qui est là seulement pour quelques mois.
Donc là, t'es en Finlande ou en Suède ?
En Suède.
En Suède, ça y est, t'as bougé en Suède.
Ouais. Et petit à petit, ça ne s'est pas établi comme ça, mais petit à petit, on commence à parler de pratiques un peu plus BDSM, domination.
D'accord. Elle est coutumière de ces pratiques-là ?
Non. Et c'est justement la chose qui est assez intéressante, c'est D'accord. que c'est elle qui l'amène, mais vraiment comme une curiosité, en fait.
Ok, un fantasme qu'elle a envie un jour peut-être de vivre.
C'est ça, comme quoi elle aimerait bien essayer peut-être un peu plus de, un petit peu plus d'axe sur la fessée, sur vraiment ce sentiment d'être plus soumise dans l'acte, etc.
Et toi, tu reçois ça comment ? Tu t'étais déjà posé la question ?
Eh bien, justement, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que jusque-là, c'est vraiment quelque chose qui, donc j'étais quand même, je savais que ça existait. Mais je m'étais toujours dit, mais comment ça marche en fait ?
Alors le BDSM, pour ceux qui ne savent pas, bondage, domination, sadomasochisme.
C'est ça.
C'est un panel,
non pas
une palette.
Que, non pas qu'il faut cocher toutes ces cases-là pour en faire.
On n'est pas obligé.
Mais voilà. Et okay. C'est quelque chose qui, toute ma vie, m'a vraiment un peu... je me suis posé des questions.
Ça te fascinait ou vraiment interpellé sans plus ?
J'étais un peu sous la pensée... Du coup, maintenant que je sais, est erroné. Deux, c'est pas possible qu'il y ait des gens qui aiment avoir mal ou aiment être mis dans des situations comme ça. Et plus en l'interprétant du bon, si quelqu'un aime vraiment quelqu'un d'autre,
oui.
de se forcer un peu à faire ça. Et c'était la première fois où, en face de moi, j'avais vraiment quelqu'un qui me disait je veux ça.
Ça, c'était virtuel, vos discussions au début ? Ou vous êtes vu rapidement ?
On s'est vu relativement rapidement. Après, forcément, les discussions ont continué un peu par texte, etc.
Et quand vous voyez, vos premiers rapports sont...
normaux.
Enfin,
si on continue dans la norme qu'on
Exactement.
A établie avant.
C'est ça. D'accord. Et donc, au fur et à mesure, vous discutez de ça. Toi, tu es open là-dessus. Enfin, en tout cas, c'est intéressant. Comment ça va se concrétiser ?
Eh bien, justement, ce qui est bien aussi, enfin, je ne juge pas, mais l'avantage de la situation, c'était que c'était relativement nouveau pour nous deux. Donc, il y avait vraiment un peu un respect l'un de l'autre où on avait une discussion qui était vraiment ouverte là-dessus. Où,
de novice, quoi.
J'ai envie d'essayer ça, j'ai envie d'essayer ça, qu'est-ce que t'en penses, on pourrait faire ça. Et vraiment se prendre la main et un peu...
Et tâtonner ensemble.
C'est ça. Et je me trouve finalement à vraiment aimer ça, à vraiment à découvrir un pan de la sexualité qui m'a toujours été caché finalement. Et vraiment ce goût pour le pouvoir, le contrôle, la vulnérabilité de son côté à elle.
La mise en scène ?
La mise en scène, oui. mais plus ce qui est finalement en dessous de la mise en scène. Et le point qui m'accroche le plus, je crois, c'est la question de confiance, où elle se met dans des situations où si je n'étais pas aussi posé que je le voudrais, il y a vraiment une opportunité de blesser la personne. Il y a un peu ce côté de ce don de soi, mm-hmm, qui m'a vraiment...
D'intégrité physique, pour le coup.
C'est ça. Mm-hmm. Et plus tard, donc j'ai eu plusieurs relations relativement éphémères dans cette zone-là. J'ai beaucoup exploré, etc. Mm-hmm. On n'était pas forcément exclusif avec cette personne-là.
Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que tu n'avais jamais vécu, la non-exclusivité.
Oui, bien que, c'est, disons que quand tu me dis la non-exclusivité, ça, je le comprends comme on a une relation établie entre nous deux où, mm-hmm, on est un peu les primaires, mm-hmm, et on s'autorise ailleurs. On s'est jamais, je pense qu'on ne s'est jamais vraiment permis de se définir comme une relation primaire.
D'accord.
C'est plus qu'on s'est vu 6 mois à peu près.
Okay.
On se voyait relativement souvent. Mais on pouvait voir d'autres personnes.
Oui, c'était pas... Okay.
Et dans cet élan-là, j'ai découvert, j'ai continué d'explorer encore plus de mon côté.
Et comment tu vas justement explorer à ce moment-là? C'est-à-dire que tu continues sur Tinder ou tu vas... aller vers des applis, des sites beaucoup plus spécifiques?
Il y a des applis et des sites un peu plus spécifiques, du coup, où tu peux rencontrer une communauté qui... D'ailleurs, la communauté BDSM est dans... Ma définition de celle-ci est quand même très, très bonne, dans le sens où les gens sont très ouverts et il y a vraiment une liberté d'expression et dans mon expérience, un respect... des goûts de l'un de l'autre, mm-hmm, et ça m'a amené à rencontrer des personnes et des caractères et des profils qui m'étaient vraiment fascinants en fait à l'époque, mm-hmm, ça m'a amené à faire à avoir des pratiques aussi différentes. Je suis allé dans certains clubs, etc., mm-hmm, voir des gens y aller tous les deux au milieu d'autres personnes.
Donc là, tu y allais avec ta partenaire de l'époque?
Même pas.
Tu y allais seule parfois?
Ouais.
D'accord. Pour comprendre un peu plus, donc toi, tu, dans le spectre de la BDSM, tu es plutôt dominant. Mm-hmm. Donc les domis.
Les doms,
pardon. donc c'est toi qui va donner le tempo et on va dire à ta soumise, puisque tu es dans des relations hétérosexuelles, c'est toi qui va donner voilà le tempo de la, alors je mets encore des guillemets, de la douleur mm-hmm, et qui va jusqu'à son orgasme à elle. Mais alors du coup, moi c'est une question que je me pose en tant que dominant, comment toi t'arrives à ton orgasme? Il reste intellectuel ou après ça se concrétise dans un rapport? Comment ça concrètement sur le terrain?
Si on parle vraiment de l'orgasme, et je sais que la définition est plus large que ça, mais si on parle d'orgasme et d'éjaculation de mon mm-hmm côté, ça va se terminer dans un rapport à la fin plutôt.
D'accord.
Parce que BDSM ou pas, j'ai toujours été très axé sur le plaisir de ma partenaire, mm-hmm, et finalement je prends beaucoup de plaisir de ça. Mm-hmm. Et il y a un peu ce côté du prends autant d'orgasmes que tu veux. Mm-hmm. Et c'est là où justement c'est important aussi de se connaître l'un l'autre, etc. C'est que en tant que dom, il faut savoir aussi où est la limite et où est cette zone marginale en fait où on peut pousser un peu la limite.
Wow.
On peut repousser ça et c'est vraiment du jaugeage un peu dans ce sens-là où. Faut être attentif.
Et ça, tu peux multiplier les partenaires et faire. Enfin, les recettes sont, j'imagine, uniques en fonction du partenaire que tu as, de la partenaire que tu as. Donc, c'est peut-être mieux de faire ça avec une partenaire que tu connais mieux, ou tu peux, toi, avoir un rapport avec une soumise que tu ne connais pas.
Il y a toujours l'excitation de ne pas connaître.
D'accord.
Et du coup, d'aller quelque part où j'y suis pas allé avant. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une satisfaction particulière de la partenaire que tu connais. Et donc, tu sais vraiment ce qui va marcher beaucoup, ce dont elle est intéressée, mais un peu donc, elle a besoin d'encouragement, si tu veux, pour donc, aller là-dedans.
Donc avec la fameuse partenaire avec qui tu es resté 6 mois et avec qui vous avez découvert tout ça, ça a dû monter crescendo.
Ouais.
Parce qu'effectivement, au fur et à mesure de vos explorations et de ce que vous avez testé, j'imagine que vous avez pu vous apprendre en tant que soumise et dominant. Vous êtes allé dans des clubs ensemble ?
On n'est jamais allé dans des clubs ensemble. Et finalement, je pense que c'était plus coïncidence qu'autre chose. On a cherché un peu d'autres couples qui voulaient peut-être faire quelque chose à quatre ou quoi. On n'a pas trouvé d'autres couples.
Donc
mais,
du mélangisme
Voilà, un peu de ça. On n'a pas trouvé d'autres couples dans ce sens-là, mais par exemple, moi personnellement, je suis rentré en contact avec un couple. Et leur délire à eux, c'était que lui aimait la voir, elle, se faire prendre par quelqu'un d'autre.
Donc le candalisme.
Voilà.
Okay.
Cuckold. Et bon, je l'ai fait une fois. Ça s'est pas trop mal passé, mais.
Pas bien passé.
Voilà. Disons que. Après, je ne sais pas si c'est vraiment lié à ça, mais pour quelqu'un qui ne voit pas vraiment les relations homosexuelles comme quelque chose d'attirant. Il y a quand même quelque chose d'un peu déroutant d'être dans l'acte et d'avoir monsieur dans le corner juste là qui forcément prend son pied. Hein.
D'accord, oui, je peux comprendre. Ça peut être un peu déroutant.
C'est ça. Et finalement, quand j'y pense, c'est peut-être la situation dans laquelle j'ai été le plus soumis dans ce sens-là. Où,
au regard de l'autre.
Leur dynamique, c'était vraiment qu'elle l'humiliait lui.
En
se donnant du plaisir,
avec
mais
un autre
pas
mec.
De sa part, en fait.
D'accord.
Donc, le terme en question, est... donc j'étais un bull à ce moment-là. Donc, je viens, il n'y a aucun doute sur ce qui va se passer.
Et ça
se passe. Et une fois que c'est terminé, je remballe et je pars.
Oui. Et là, c'est là que tu t'es senti...
Ouais, il y a un... bah
après dans l'autre sens ça peut enfin si tu peux c'est toujours pareil, c'est ça qui est formidable avec le sexe, en fonction de la lecture et du prisme, ça peut être au contraire lui qui fait une grande preuve d'amour à sa femme en lui ou enfin voilà, en tout cas dans leur intimité, en la laissant prendre du plaisir avec un autre homme, enfin tu vois, après tout dépend du curseur, mais je peux comprendre toi qui domine en tout cas une situation ou en tout cas qui lui donne son tempo et son rythme, de te faire prendre, entre guillemets, dans un trio sexuel où, finalement,
c'est
tu
ça.
Es le troisième, quoi.
C'est ça. Un des critères aussi du BDSM dans ce sens-là, c'est bien aussi le fait d'être utilisé, finalement, pour plaisir de quelqu'un d'autre, pour une fin un peu plus abstraite. Et c'est vrai que... c'est sûrement la seule fois où je me suis senti du coup utilisé pour les fins de quelqu'un d'autre finalement. Et je pense pas que c'est vraiment pourquoi j'ai pas apprécié aussi bien que le reste, mais voilà, c'était
c'est
intéressant.
Moi, ouais,
ça
essayé.
Fait une bonne anecdote à raconter de temps en temps. Mais oui, je pense pas que c'est quelque chose qui me.
Et dans tes pratiques aujourd'hui, alors qu'est-ce que tu. Enfin. Dans les parties, on reste BDSM, mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu as découvert que tu aimes vraiment, que tu aimerais dans un futur plus ou moins proche, parce qu'après on va en parler d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais pousser ? Parce qu'il y a plein de choses, ça va du très soft, entre guillemets, comme tu en parlais au début avec la fessée et un peu de bondage, etc., jusqu'à des pratiques vraiment très extrêmes. Donc qu'est-ce que toi tu te situes aujourd'hui ?
Et ça fait partie du chemin de toute personne qui rentre là-dedans.
Bien
et une étape qui est très importante, c'est de pouvoir définir ce qu'on appelle des soft limits et des hard limits. Et vraiment, les limites dures, c'est bien d'être clair là-dessus très rapidement.
C'est plus chic en anglais quand même.
Oui, c'est ça. Je n'imposerai pas la langue sur quiconque, mais quand même, on a tous une opinion. Mais par exemple, je sais que moi, en tant que dom, ces limites-là, ça va être... j'ai rencontré des gens qui me demandaient de prendre un couteau et le plaisir venait du sang. J'ai rencontré des gens qui voulaient que... Enfin, la fessée, c'est une chose, pincer, tout ça, c'est une chose, mais quand on commence à me demander de donner un coup de poing, des choses comme ça...
Les gens ne voient pas, mais tu es bien baraque, donc le coup de poing, il doit bien...
C'est, j'imagine. Du coup, je ne me suis jamais tenté à ça, donc je ne peux pas juger. Et forcément, bon, tu as des... T'as aussi des gens qui... tout ce qui est scat, tout ce qui est urinoir, etc. Et c'est pas vraiment quelque chose... même si forcément, eux, ça leur, elles, ça leur ferait plaisir, c'est un peu une limite où... bah, autant, là, tu peux prendre du plaisir, mais toi, bien que je prenne du plaisir quand tu en prends, c'est les choses où, pour le coup, ça me coupe.
Ok. Et les partenaires que tu vois, c'est des femmes qui ont quel âge ?
Et bah, ça varie quand même pas mal, hein.
T'arriverais
j'ai vu
à...
des personnes plus jeunes que moi de quelques années.
Ok, donc entre 20 et 25.
C'est ça. Et j'ai rencontré quelques personnes de, entre 30 et 45, je dirais.
D'accord. Il y a un profil type ou pas du tout ?
Il n'y a pas de profil type, je pense pas. Et j'encourage totalement les auditeurs à regarder, à s'informer un peu là-dessus. Mais on a aussi des profils différents. On a ce qu'on appelle des « brats ». Et on a ce qu'on appelle des prey.
Donc ça veut dire
Non, brat, ça va être des filles qui veulent être un peu insolentes, qui vont un peu essayer de te pousser et d'amener en fait...
La situation.
La situation pour être...
punie.
Punie, voilà. donc il y a tout un tas de profils comme ça et finalement c'est ça aussi ce qui est intéressant, c'est que bah, les profils changent et c'est des spectrums un peu partout. Donc la probabilité de rencontrer deux fois la même personne est quand même très très faible.
Il y a une part de jeu de rôle dans tout ça ?
Clairement.
Toi tu sens que quand tu es d'homme, il y a quelque chose d'autre que tu donnes à ton partenaire, à ta partenaire ?
Clairement, je pense que forcément, c'est très très difficile de dissocier la sensation physique de la chose, mais le psychologique est autant, si ce n'est pas plus impactant, je pense. Cette idée d'être en contrôle, d'être responsable aussi, parce que c'est aussi une part qui doit venir avec la chose, d'être responsable pour le rapport en question, pour la personne, peu importe. Peu importe la distance à laquelle on va pendant ce rapport-là, il faut aussi qu'après coup, il y ait une, ce qu'on appelle aftercare, console, qu'on soit un peu plus doux dans ce sens-là. Pour, parce que,
ça, c'est nécessaire à tout rapport BDSM ?
Du moins, des personnes que j'ai rencontrées, oui. C'est quelque chose qui est important et parce que, comme je disais, c'est un don de soi. Donc, c'est pas que une soumise fait ça et elle s'en fout. C'est vraiment un sacrifice qu'elle fait de soi-même.
C'est fort, un sacrifice.
La douleur, c'est une douleur. C'est juste que dans le contexte,
oui, c'est
une soumise arrive à la
canaliser pour
la
en
canaliser
faire un orgasme.
Pour faire quelque chose d'autre, mais c'est quand même de la douleur, c'est quand même quelque chose.
Et dans un autre contexte, c'est de l'humiliation et ça fait mal.
C'est ça.
Ok, donc je comprends. Non, après, c'est vrai que, bon, pour les gens qui s'y intéressent ou qui ont envie de passer à l'acte et en tout cas le vivre, il y a quand même, ce que tu dis, c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de codes et pratiquer du BDSM et s'en sortir de façon... en tout cas épanoui, ça demande quand même pas intellectualisation, mais en tout cas il faut y penser, il faut l'anticiper un petit peu.
Une connaissance de soi et vraiment une attention vis-à-vis de l'autre aussi, qui doit être là aussi dans tous les autres rapports qu'on peut avoir forcément, mais je dirais peut-être encore plus dans des rapports comme ça où justement on joue avec la ligne, hein, on joue vraiment
toujours
sur des choses qui peuvent tourner un peu mal, hein. Je veux dire, ça arrive des
fois. Ça a déjà arrivé ?
Pas pour moi, je ne crois pas.
Tu mets le...
Ah, le safe word. C'est vrai que safe word, c'est la base presque.
Ouais, c'est
ça. Il faut vraiment avoir quelque chose comme ça. Et c'est là où on tombe aussi dans des rapports quasi méta, où il y a cette question du consentement non consensuel. où ça, on a forcément quelque chose qui s'oppose. Cette question de prétendre ne pas vouloir ce qu'il se passe, bien qu'on ait en commun accord sur le fait que c'est le plan.
Waouh. Attention, ouais. Vous avez 4 heures.
Et c'est là où...
c'est là où toi, comme tu dis, il y a une responsabilité absolue de continuer ou pas le rapport et d'aller jusqu'au bout ou pas. Enfin bon, bref, c'est... Oui, effectivement, comme tu dis, ça devient méta dans le sens où il faut être hyper en phase. Et tu parlais d'empathie dans tes années jeunes, mais là, en fait, l'empathie, elle prend tout son sens. Il faut que tu... respiration, chaque geste, chaque frémissement, chaque gémissement, il faut que tu l'interprètes, quoi.
Il y a de ça, et c'est pour ça que, en ce qui me concerne, je ne vais pas dans des choses comme ça avec quelqu'un que j'ai rencontré le soir même ou même deux semaines avant. Je pense que c'est des rapports où il faut vraiment commencer à connaître l'autre et,
Et avoir beaucoup discuté,
avoir
j'imagine.
Un peu plus de sensibilité, en fait, sur où est-ce qu'elle est maintenant.
Ces rapports-là, tu les as sobres ?
Oui.
Oui, hein, j'imagine que...
L'alcool n'a jamais vraiment été un goût particulier de ma part.
Mais que ce soit alcool ou drogue, je pense que... Enfin, j'imagine que ces rapports-là, il faut quand même les maîtriser avec tous ses moyens, parce que ça peut vite déraper.
Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment justement...
Oui, je joue encore avec ça en plus. Mais ouais. Est-ce que tu pourrais dire, sans effectivement dévoiler l'intimité de tes partenaires, mais quelle était la chose la plus dingue que tu aies eu à faire comme demande ?
Donc, que j'ai fait.
Qu'on t'a demandé comme tu veux.
Une chose qu'on m'a demandé de faire et que j'ai fait, mais c'est une des situations où je me suis presque fait peur moi-même parce que c'était un peu une première de ma part et sans trop savoir ce qu'il y avait de l'autre côté. Il y a beaucoup de soumises qui sont très intéressées dans ce qu'on appelle le breath play.
Ah oui.
Ce qui va du coup réduire l'accès d'air
donc
au cerveau.
L'étranglement.
C'est ça. Du moins pas l'accès d'air, pardon. Pour les pratiquants, ils vont avoir les gros yeux quand je dis ça. Non, justement, réduire le flux de sang au cerveau, qui est très important du coup de ne pas bloquer l'arrivée d'air.
Ah oui, donc il faut bien savoir mettre les mains parce que
c'est
sinon...
Et du coup, on m'a demandé de faire ça jusqu'à...
L'évanouissement.
Et donc, ça s'est passé. Elle a perdu connaissance seulement quelques secondes parce que, une fois que je l'ai vu vraiment partir, j'ai arrêté tout de suite en pensant que j'étais trop loin ou j'étais pas sûr vraiment de ce qui se passait en fait. Et un peu aussi l'idée après coup de je suis en train d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qui n'est pas là, enfin...
Qui est inconsciente.
C'est ça. Et un peu le questionnement moral de la chose même.
Ouais, je comprends.
Et ça fait un peu partie du coup de définir un peu ses limites où on commence à se sentir vraiment un peu... Il y a un peu un sentiment d'insécurité en fait.
Ok. Alors bon, là tu nous as bien raconté tout ce pan-là, même si je pense qu'on pourrait en parler des heures. Ce qui est intéressant aussi, c'était aussi l'objet de notre échange, c'est qu'aujourd'hui, tu es dans une relation et ta compagne n'est pas du tout dans ce...
Pas du tout.
Mais du tout.
Pas du tout. Honnêtement, elle doit être la personne la plus vanilla que j'ai rencontrée.
D'accord. Vous êtes ensemble depuis combien de temps ?
Ça va faire 3 ans bientôt. Ça va faire 3 ans et au début, ça se passait très bien parce que, forcément, loin de mes pratiques et de mes goûts un peu plus extrêmes.
Tu l'amènes pas au donjon tout de suite.
C'est ça. Mais disons que tant qu'il y a un peu cette passion des premières fois, des premiers mois et tout, missionnaire ou pas, c'est très bien, quoi. Mais du coup, forcément, avec la durée... et c'est vraiment un sujet où je pense qu'il y a un peu une gêne de son côté et on en a parlé quelques fois, il y a vraiment un sentiment de elle n'a pas besoin de plus que ça pour prendre son pied. Ce qui n'est forcément pas mon cas et ça rend la situation compliquée. Je me rappelle que relativement tôt on a eu une discussion sur ça où bien que ça va pour l'instant, je pouvais déjà m'imaginer dans une situation où le manque de variété commençait un peu à me à me faire poser des questions et en priant de justement pas seulement des questions mais ne pas fauter dans, dans ce sens-là. C'est une relation exclusive et j'ai un principe de loyauté dans ce sens-là aussi. Et être mis dans cette position-là, c'était aussi un calcul de ma part. Est-ce que je pense que je peux le faire? Et forcément, il y a forcément un espoir de peut-être que...
Elle a ton âge?
Elle a un an de moins que moi, donc, oui, donc on est dans la même phase.
Tu lui as parlé du BDSM, tu lui as parlé de ce que tu as fait. C'est quelque chose qu'elle comprend mais qui ne l'intéresse pas? C'est quelque chose qui, au contraire, la met un peu mal à l'aise? Tu sais à peu près?
Je pense qu'elle comprend dans le sens où elle peut s'imaginer un peu, mais à des années-lumière de ce qu'elle...
Oui,
de sa définition du plaisir.
D'accord.
Clairement.
Et en plus, j'imagine la façon dont tu racontes le BDSM, tu n'es pas pour, et ça s'entend complètement, que quelqu'un fasse ça pour le plaisir de l'autre, dans le sens où il faut que ce soit une motivation vraiment personnelle et une quête avec soi, parce que sinon, effectivement, que ce soit soumis ou dominant, ça ne doit être pas très agréable à vivre si tu n'es pas 100% OK avec toi-même.
Non.
OK, donc aujourd'hui, votre sexualité... est une sexualité d'un jeune couple qui a déjà 3 ans de vie commune. Toi, avec toi-même, si on essaie d'être très honnête, tu vois votre vie comme ça, longtemps ?
J'ai du mal à le voir. Là, on a sauté déjà beaucoup d'autres faits dans la relation aussi qui participe à la situation dans laquelle on est. Il y a une question aussi de maladie, etc., où ça rend la chose déjà un peu plus compliquée. Et de mon côté, et ça, j'assume la responsabilité de ça. Comme j'ai dit plusieurs fois déjà dans l'interview, j'ai une empathie naturelle et une empathie qui, finalement, dans notre situation, est un peu sortie de l'enclos. Trop d'empathie rend la chose difficile parce que la maladie est tellement présente tout le temps, il y a tellement de négativité qui en vient. Finalement, la relation sexuelle devient secondaire finalement dans le couple. Il y a tellement d'autres choses qui viennent vraiment de bombarder l'esprit tout le temps, dans mon cas. Et je vois un psy... pour essayer de trouver une solution de ce côté-là, par exemple. C'est la première relation dans laquelle je me suis trouvé dans la position de celui qui ne veut pas.
D'accord.
Finalement, ou du moins qui ne se sent pas de le faire. C'est une situation difficile.
C'est que ta libido est impactée par justement la maladie de ta compagne au sein de votre couple?
Il y a de ça, il y a le stress du travail aussi. Je travaille beaucoup, je voyage beaucoup.
Oui.
Donc, il y a plusieurs facteurs comme ça qui viennent. Et un sujet qu'on a abordé au tout début, qu'on n'a pas abordé vraiment au milieu, la masturbation est devenue plus quelque chose de mécanique dans le sens de... C'est plus une question d'arriver à une solution chimique en fait dans le cerveau.
D'accord,
pour
libérer un peu d'endorphine,
libérer de pression, de tout ça. Après, ça c'est une question d'ailleurs que je me pose. J'ai pas vraiment de réponse, mais on parle de plus en plus de viol et de viol dans la relation conjugale. La question qui me vient, parce que forcément on parle beaucoup de consentement, est-ce qu'un viol c'est du sexe sans consentement ou contre l'absence de consentement? Dans le sens où il m'est arrivé, malheureusement, plusieurs fois d'être dans cette situation-là où ça va faire quelques semaines où on n'a pas couché ensemble à proprement parler. Et elle le veut. Et je suis dans une situation où... je me vois un peu de l'extérieur et je me dis que c'est pas normal que je me sente comme ça, mais elle veut ça et de me forcer finalement de le laisser se passer.
Mmh.
Et un sentiment de honte vis-à-vis de moi-même, du rapport en lui-même et de la situation de la relation en question.
Tu as ce rapport-là avec elle parce que tu sens que si tu lui dis non, ça va lui faire trop de mal.
Disons que c'est pas lui dire non qui ferait trop de mal, c'est lui dire non pour peut-être la troisième fois.
Oui.
La première fois,
t'es fatigué.
Ça s'explique. La deuxième fois, voilà, t'as peut-être trop bossé. Que fatigué, tout ça. La troisième fois, ouais. On commence à être un peu à court d'excuses, tout ça, et peut-être, enfin, erroné, mais il y a aussi ce sentiment de devoir ou de fonction dans le couple.
Ce fameux devoir où pendant très longtemps on l'a prêté qu'aux femmes. Mm-hmm. Parce que pour une femme, physiologiquement, c'est un peu plus, je mets des guillemets, facile. Mais c'est vrai qu'un homme, comme parfois on entend, mais non, mais lui, enfin, un homme peut pas être violé. C'est pas possible en fait. Mm. Et si, c'est tout à fait possible sur plein de raisons. Et effectivement, ce que tu dis, c'est aller chercher des images mentales et avoir ce rapport-là. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre relation, tu sens qu'il y a encore beaucoup de sentiments amoureux ?
En effet. Et ça, je sais que j'en ai parlé un peu aussi dans mmh. ce que je t'ai écrit mmh. au tout début, où, ironiquement, c'est la personne avec qui je suis allé le plus loin sentimentalement. Et une image que j'utilise souvent, c'est que on va rencontrer beaucoup de personnes dans notre vie et j'appelle ça des personnes rouges ou des personnes avec qui on va matcher très bien sexuellement, de mm-hmm. ce côté rouge, du coup, de ce côté plus
charnel,
voilà, impulsion, tout ça.
Mm-hmm.
On est très connectés. Et de l'autre côté, enfin, du coup, l'idéal devrait être de trouver quelqu'un qui est quand même assez rouge avec toi et de l'autre côté bleu. Quelqu'un avec qui tu te connectes vraiment sentimentalement. Tu as vraiment des projets de vie qui se ressemblent, des priorités qui se ressemblent. Et dans ce cas-là, si je continue dans cette analogie, ma relation actuelle est très très bleue et de moins en moins rouge. À un détriment, forcément. Je suis tout à fait conscient que ce n'est pas idéal, bon pour moi, bon pour elle, bon pour quoi que ce soit. L'espoir que j'ai, c'est que d'une manière ou d'une autre, on arrive à trouver un échappatoire à ça, finalement. Par exemple, je disais que je vois un psy pour essayer de comprendre et de régler un peu ces problèmes-là de peut-être trop d'empathie de mon côté. Mm-hmm. J'ai donné quelques pensées à peut-être voir un sexologue ensemble, essayer d'explorer un peu cette zone quand même grise,
mm-hmm.
qui a toujours été grise finalement, où elle est très fermée de ce côté-là et qui est très, elle est très à l'encontre de faire autre chose.
Elle a ta maturité ?
D'un point de vue sexuel, si on parle de ce mmh. sens-là, non.
Et émotionnel ?
Émotionnellement, je pense que on est un peu différents, mais du coup complémentaires dans ce sens-là. Je pense que ça marche bien, mais elle est peut-être un peu plus, un petit peu plus, comment on va dire. Elle va se mettre en avant peut-être un peu plus que moi,
mm-hmm.
dans ce sens-là, où ses besoins, ses envies sont plus importantes que les miennes.
Mm-hmm. On arrive à la troisième partie, j'aimerais que tu me racontes, même si on a déjà un peu défloré ça, mais du coup, tu l'imagines comment ton futur ? Parce que quand tu parles du BDSM, tu rayonnes, tu souris, donc c'est quelque chose qui a l'air de te plaire et dans laquelle tu as trouvé peut-être des réponses, ou en tout cas, comment tu vois ton futur ? Parce que là, tu n'as que 26 ans, même si on a l'impression que tu as 153 ans quand tu parles. Comment tu vois les choses ?
Bien sûr, là où je suis maintenant, le désir pour l'avenir, c'est que, bah, comme je disais, qu'on trouve quelque chose pour peut-être se rencontrer un peu plus au milieu.
Mm-hmm.
Et je sais que bah, la situation mentale ou la situation médicale dans ce sens-là, il joue un rôle et ça, on ne peut pas vraiment contrôler. Donc, il y a beaucoup quand même y a beaucoup de choses qui sont un peu en suspension pour l'instant. Et forcément, si je suis encore dans cette relation-là, c'est qu'il y a encore un espoir que ces choses-là se règlent et s'améliorent. Mais c'est vrai que, comme tu disais, je ne suis pas dupe. C'est clair et net qu'elle n'ira pas dans cette sphère qui m'est chère finalement. Et c'est vrai que c'est difficile de se dire que ça va être toute la vie en fait. Cette question de frustration finalement constante. De toujours vouloir quelque chose parce que c'est pas non plus comme mon imaginaire s'est arrêté en fait. La relation est une chose mais l'imaginaire continue, il y a toujours des désirs qui viennent, toujours des idées qui viennent, on verra si quelque chose se passe, voilà.
Tu t'autoriserais avec peut-être son accord si vous arrivez à trouver ce juste milieu de toi continuer à fréquenter ce milieu sans elle?
Étrangement, tu me poses cette question-là et j'ai pensé à quelque chose il y a pas plus loin de 2 semaines où j'ai toujours eu un peu de mal à comprendre. Tu sais, quand on entend des couples qui ont été ensemble pendant très longtemps et qui parlent d'arrangement, tu sais, j'ai toujours eu vraiment un doute du oui, mais du coup, si vous vous arrangez comme ça, est-ce que vous êtes vraiment ensemble, etc. Tu vois. Et pour revenir brièvement sur cette théorie de rouge et de bleu, je suis venu finalement, et c'est là où je vois où je grandis, dans ce sens-là, je commence vraiment à comprendre si 2 personnes sont bleues à fond dans ce sens-là, où ils sont connectés et ils sont ensemble et ils se comprennent et il y a vraiment un confort chez l'un chez l'autre. Et par exemple, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans ma relation en ce moment, où je peux vraiment comprendre l'idée que bah, si le sexe se passe en dehors de cette sphère-là, que cette relation particulière ne soit pas affectée en fait. Donc moi, de mon côté, ça commence à évoluer dans ce sens-là. Je sais que dans du sien, du moins jusque-là, c'est vraiment quelque chose qu'elle n'y croit pas. Donc, pour le futur, ça m'étonnerait aussi qu'elle bouge vraiment sur ces avis-là. Encore une fois, j'étais à son niveau il n'y a pas si longtemps que ça, donc pourquoi pas.
Oui, laissez-vous peut-être le temps. Et puis, comme tu dis, si vous allez vers peut-être une thérapie ou quelque chose, ça va peut-être ouvrir beaucoup de portes, peut-être pas celle-ci, peut-être d'autres, mais effectivement ça peut être une solution. Pour revenir dans le BDSM, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais essayer, que tu n'as pas eu le temps de faire puisque tu as rencontré ta compagne?
Oui, et finalement celle qui m'intrigue encore, il y a un peu, enfin, le manque du BDSM, comme beaucoup d'autres mondes, ont des tendances, des fashion. Et une en particulier qui m'intrigue et qui demande aussi de l'engagement de mon côté, et de l'apprentissage et tout, c'est ce qu'on appelle du shibari.
Donc les liens, c'est un art japonais?
C'est ça, un art japonais d'attacher avec des cordes, etc. Mais sans douleur particulière, vraiment de trouver comment immobiliser quelqu'un.
Et puis il y a une quête très esthétique dans le shibari, c'est ça qui est extraordinaire. Les corps changent complètement.
C'est quelque chose où ma fenêtre BDSM n'a pas été assez longue pour vraiment m'y donner. Mais c'est quelque chose qui m'intrigue dans le sens où je pourrais apprendre quelque chose et je sais que c'est quelque chose qui plaît aussi. Donc pourquoi pas.
On va arriver à la fin. Ce serait quoi le mot de la fin?
Le mot de la fin, j'aimerais vraiment mettre un accent. J'ai essayé d'être aussi pédagogique que possible et clair sur ce qui est important dans des relations, surtout dans des relations BDSM où tu joues avec des choses comme la douleur, comme le désespoir, des choses comme ça un peu, où c'est important vraiment d'être attentif, d'être bon l'un envers l'autre. Et aussi... je dois imaginer que je ne suis pas le seul dans cette situation-là, d'être dans une relation qui n'est pas, qui ne correspond peut-être pas à tes goûts personnels au maximum, et qu'il y a, un peu un combat constant de, entre la frustration et ce qui se passe et comment évoluer là-dedans, et que du coup, si... Si vous êtes dans cette situation-là, que il y a toujours des possibilités de trouver. J'ai seulement commencé récemment une thérapie, etc. Donc il y a beaucoup de doutes autour de ça, mais si on y tient vraiment, on se fait violence et on essaye de trouver quelque chose pour y remédier. Mais comme me dit mon psy, pas de temps en temps, à chaque fois, les besoins qu'on a nous-mêmes sont aussi légitimes que les besoins des autres, et que forcément il y a une part de sacrifice dans tout ce qu'on fait, mais qu'il faut trouver la limite. Je travaille encore à trouver cette limite, mais si vous êtes dans cette situation-là, je vous encourage à essayer de la trouver aussi, et de faire les choses bien pour vous-même aussi.
Ok, bah merci infiniment.
De rien.
Merci infiniment à Alan d'avoir pris ce temps, d'avoir raconté les choses avec autant de vérité, d'honnêteté, de sincérité. Merci à vous pour votre soutien, votre fidélité, et vous, auditeurs et auditrices, qui êtes toujours présents et de plus en plus nombreux surtout. Je vous invite à venir sur... le compte Instagram de On The Verge, On The Verge Podcast, mais aussi venir me donner votre avis, échanger. C'est toujours très intéressant d'avoir vos retours. Ils me permettent d'évoluer, d'aller dans des directions qui vous plaisent davantage. Et voilà, et en fait, on fait ça ensemble. Donc n'hésitez pas à venir échanger. À très bientôt.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.